enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
L'album est vraiment extraordinaire, alors procurez-vous l'album, vous allez être grandement béni. Nous allons regarder ce matin, continuer avec notre série de messages à la découverte des noms de Dieu. Et ce matin, nous regardons, nous avons vu plusieurs des noms de Dieu déjà, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, le Dieu Éternel, le Dieu qui est un refuge. Et dans la deuxième partie ce matin, nous regardons ensemble au livre de l'Exode, chapitre 15, Jéhovah Rapha, le Dieu qui te guérit. Et j'aimerais débuter ce message ce matin avec une déclaration toute simple, mais qui brûle sur mon cœur. J'aimerais faire cette déclaration qu'il n'y a aucun équivoque, aucun doute. J'aimerais débuter ce message en disant, nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que Jéhovah Rapha guérit encore des gens aujourd'hui. Ceux qui le croient, s'il vous plaît, voulez-vous applaudir un Dieu qui ne change pas? Nous croyons à la guérison. Nous croyons qu'il y a, et nous, non seulement nous croyons, mais nous vivons, nous voyons. Nous avons les témoignages, et chaque Église qui croit en un Dieu qui n'a pas changé, en l'immuabilité de Dieu, en l'inspiration de la parole de Dieu, la puissance du Seigneur, de son sang, de la puissance du Saint-Esprit, partout à travers le monde, à travers le Québec, à travers le monde, des témoignages comme nous avons de gens qui témoignent que Dieu les a guéris. Il y a des guérisons. Nous croyons que Dieu guérit. Nous voyons que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y a des guérisons qui sont instantanées, qui sont totales. Il y a des guérisons qui sont graduelles. Lorsque vous regardez la conjugaison en hébreu de cette déclaration, « Je suis le Seigneur qui te guérit », vous pourriez le conjuguer de façon continue. C'est un mouvement. C'est Dieu qui dit « Je suis le Seigneur qui t'a guéri, je suis le Seigneur qui te guérit et je suis le Seigneur qui te guérira » et qui offre une guérison qui sera perpétuelle. Il y a des guérisons qui se font instantanément, il y a des guérisons qui sont graduelles. Il y a des gens qui ont reçu des guérisons alors qu'il y avait l'amalgame de la médecine et de la prière et de la foi. Et nous ne voyons aucune, bien au contraire, opposition entre ces deux aspects. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une aide médicale alors qu'il est malade qu'il n'a pas la foi. Nous croyons que Dieu a permis et a accordé la science également à sa création et que tout ça travaille ensemble. Il y a des guérisons qui sont spectaculaires, qui sont inexplicables, qui sont des guérisons qui sont, que tu ne peux pas réfuter, irréfutables, absolument miraculeuses. Il y a des guérisons que nous vivons, vous et moi, dans nos vies de tous les jours, qui pourraient paraître plus petites pour certains, pour être explicables autrement. Nous avons vécu, beaucoup d'entre nous, des moments où que ce soit une migraine ou que ce soit un mal de dos ou quelque chose de physique qui te faisait mal et d'une manière que toi, tu sais, tu vas mourir et vivre dans l'éternité en sachant qu'il y a vécu quelque chose. J'ai parlé à Dieu, j'ai prié à ce moment-là et à ce moment-là, il y a un soulagement, il y a une guérison qui est venue et il y aura toujours quelqu'un qui dira, ah oui, mais ça, c'est psychosomatique, c'est l'effet placebo. C'est beau, c'est le hasard. Et moi, j'aime la simplicité simplement de répondre après plus de 30 ans de marche avec Dieu. Tu peux dire que c'est le hasard, mais j'ai découvert que plus je prie, plus il y a des hasards qui s'accomplissent. Il y a des guérisons qui sont physiques, spectaculaires, saisissantes. Il y a des guérisons tout aussi surnaturelles. Des guérisons tout aussi vraies, tout aussi nécessaires, tout aussi miraculeuses, qui sont des guérisons spirituelles, des guérisons émotionnelles, des guérisons psychologiques. Lorsque quelqu'un est malade dans son corps, à ce moment-là de sa vie, c'est cette guérison-là qu'il recherche. Mais la personne qui est en bonne santé dans son corps, qui n'a rien de mal, que tu peux mesurer dans une éprouvette, mais qui est foudroyée avec un épuisement professionnel ou avec une dépression chronique ou avec des crises d'angoisse et qui reçoit de la part de Dieu, comme des dizaines ici, une aide, un rétablissement, une paix. Ils peuvent aussi et disent aussi et savent que cette guérison-là est tout aussi vraie et tout aussi importante. Lorsqu'un couple trouve une guérison alors qu'il n'y avait plus rien, lorsqu'il y a une guérison d'un cœur, d'un ministère, d'une vie, d'un espoir, d'une famille, nous croyons que chacun des aspects de ces guérisons sont tout aussi vrais et authentiques. Et pour nous, c'est pas possible pour moi de faire une semaine, de regarder à une rangée de l'Église. sans voir des gens qui se lèveraient et qui témoigneraient « Dieu m'a guéri ». La réalité de la guérison, qu'il est le Dieu qui guérit. Alors que je préparais ce message, alors que je suis en train de préparer ce message, je pensais juste à ça, je suis en train de préparer les notes et rechercher « Il est le Dieu qui guérit ». Et à chaque jour dans ma vie pastorale, dans la dernière semaine, j'avais, et c'est comme ça à chaque semaine, mais je suis en train de préparer le message et je déjeune avec mon frère qu'il y a quelques années, j'étais le visiter dans sa chambre d'hôpital, cancer des ganglions, très grave, là, la peau et les os couchés dans son lit d'hôpital en grelottant, qui est maintenant, depuis des années, cancer-free, non seulement a été rétabli, mais aucune trace de cancer en lui. Je me retourne, alors je reviens de mon déjeuner avec lui, et je suis en train de préparer mon message, et je vois passer M. Bergeron, pas Yves qui a conduit les champs ce matin, mais son papa, et qui travaille encore, qui est ici à l'église, et qui depuis 10 ans et plus fait des travaux ici à l'église. Je sais pas quand je l'ai rendu, 70, 75, il épuise tous les jeunes hommes épuisés depuis des années, jeunes de l'église. Je me souviens du moment où moi, Yves et sa famille, il y a 10 ans, on est entré dans la chambre, était presque dans le coma. Ils ont dit « Venez ». On ne sait même pas s'il va passer la journée, passer le lendemain. On est arrivé dans la chambre, on s'est mis à prier pour lui. Il a poussé un soupir, s'est réveillé. On a senti, pour prendre une expression de la Bible, qu'une force entrait en lui. Et alors que les médecins étaient prêts à signer que c'était fini, il a donné 10 ans de plus encore ici à servir le Seigneur aujourd'hui. Alors je vois passer M. Bergeron. Je prépare mes notes. Vous me suivez? Guérison. Guérison. Quelqu'un me dit la même semaine que c'est la fête de telle femme de l'Église. Alors, j'envoie une petite note. Bonne fête à elle. Et je pense à ce moment, il y a 20 ans et plus, où leur mariage était fini, où leur mariage n'était pas seulement malade, il était mort. Mais Dieu a réconcilié. Dieu a amené une guérison. Ils étaient en santé physiquement, mais leurs âmes, leur couple était malade. Et ils ont reçu une guérison à ce moment-là. Et aujourd'hui, leurs enfants sont ici dans l'Église. Alors, je reviens et j'écris les notes et j'apprends. Jonathan Simard vient d'avoir un troisième enfant. Il est papa de troisième enfant, envoie une petite note de félicitations à Jonathan. Et je pense à ce moment, il y a quelques années, où il n'était pas malade dans son corps, mais son âme et ses pensées si malades qu'il pend. Il pend au bout d'une corde de suicide, de désespoir, une corde de destruction. Mais Dieu vient et il est l'Éternel qui le guérit, le restaure, le libère, le ressuscite et fait de lui un père de famille. J'aimerais vous déclarer, dans toutes les sphères de nos vies, il est encore le Seigneur qui guérit. Quelqu'un devrait applaudir le Dieu qui guérit. Dans chaque église, ici, et de part, en train de préparer mon message, j'ai reçu un email d'un pasteur du sud de la France et on est en train de préparer pour une mission que je vais aller faire là-bas au mois de novembre et aussi pour la possibilité d'œuvre ensemble en Côte d'Ivoire. Et alors que cette semaine, mes notes, tous mes livres, mes notes sont là pour Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, et j'ai ce témoignage devant moi. La dernière fois que je suis allé dans son église, l'an dernier, je suis arrivé à l'église et puis lorsque la louange a commencé, il y avait un frère, sa photo va apparaître à l'écran, Pierre, il y a un frère qui était au piano, qui était là et j'ai... Nos musiciens ici sont dynamiques, mais Pierre, une espèce, il est branché sur un courant plus fort. Alors, un sourire éclatant. Il jouait, si est possible, de jouer du piano, les deux mains sur le piano et les pieds qui ne touchent pas à terre. Lui, il faisait ça. Il jouait, et je me penche vers le pasteur, et je dis, wow, tout un dynamiste, il est vraiment dedans. Et il me dit, il y a quelques années, il était dans sa chaise roulante dans les derniers stages de la sclérose en plaques. Et Pierre a maintenant un témoignage avec des documents médicaux. Il a maintenant un témoignage qui a fait le tour de l'Europe, à la télévision, à la radio, sur Internet, témoignage qu'il a écrit, qui apparaît dans des articles de magazines. Ses problèmes ont commencé en 1999, engourdissement, perte de sensation, paralysie des mains, ce qui était une tragédie pour lui comme musicien. En mai 1999, il a fait le test à IRM qui a révélé un diagnostic de sclérose en plaques, mais il y a plusieurs catégories, mais lui avait la forme la plus sévère, la plus violente et la plus grave. Il y a une paralysie grandissante qui s'est installée, handicapant sérieusement ses 4 membres. Et toutes sortes de choses lui sont devenues impossibles. De manger, d'être capable d'avaler, de tenir dans ses mains, de marcher, et toute la vie devenant littéralement prisonnier de son corps. En 1999, 2000, 2001, les crises empirent, les poussées de la maladie de pire en pire, toutes sortes de moyens qui sont pris pour ça va être ça maintenant, ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Il s'accroche à Dieu, l'Église qui prie. Et un dimanche, qu'il est dans une réunion comme nous ici ce matin, qu'il est assis dans l'Église et qu'on prie les uns pour les autres, il y a quelqu'un qui donne une parole que la parole de Dieu appelle un don spirituel, une parole prophétique. Il y a une parole qui, qui est lancé et quelqu'un est résonnant dans l'église, tu es comme un arbre mort à qui on a coupé des branches. Mais je te dis que tes branches vont retrouver la vie. Et alors qu'il est là, cette parole-là, c'est pas seulement la parole qui est donnée, il y a quelque chose qui prend place, il ressent une force entrer en lui, il ressent une foi monter en lui, et le pasteur qui est là avec simplicité, il ne dit pas ça à tout le monde à chaque jour, mais le pasteur se tourne vers lui avec ce que la Bible appelle une parole de connaissance, le pasteur se tourne vers lui, pasteur Patrick, et lui dit, « Ta sclérose en plaques est guérie. » Et dans les jours qui viennent, ce qu'il ne pouvait pas faire hier, il recommence à faire, ça crie dans la maison, il y a un émerveillement, il commence à être capable de bouger, commence à être capable de marcher, commence à être capable, et finalement, il y a des gens qui lui disent, oui, mais c'est parce que là, t'es comment? Ça arrive des fois, c'est une rémission, mais les poussées vont venir, les crises vont revenir. Et dans un témoignage qui a fait le tour de l'Europe, il écrit, je prends ses propres paroles. Il dit, le médecin, les symptômes disparaissent graduellement jusqu'à totalement. Et un nouvel examen IRM révèle, le médecin confirme sans s'en douter, non seulement ma guérison, mais surtout un miracle. Dieu ne s'est pas contenté de me guérir. Il est allé régénérer mon cerveau. Bien si même qu'il ne reste même pas les cicatrices de la première poussée. Je tiens à faire part de la chose à mon médecin traitant. En comparant les deux IRM, il confirme ce qu'il n'hésite pas à appeler un miracle, m'avouant que c'est pour lui la première bonne nouvelle de l'année. Le neurologue que je vais revoir peu de temps après en arrive à la même conclusion avec une heure et demie d'un examen clinique approfondi. Il me demande même la permission de garder les preuves du miracle pour en parler autour de lui. Je réapprends les joies de me lever d'un bond le matin, de prendre mes repas sans m'étouffer, de ne plus guetter les signes annonciateurs d'une nouvelle crise, de pouvoir jouer de la musique, de pouvoir chanter, de pouvoir parler, de pouvoir marcher. Quelle délivrance! Je me sens une nouvelle création par la grâce de Dieu. Je le remercie à chaque matin pour la santé qu'il me donne, tous ces petits miracles qui me permettent d'utiliser mon corps tout entier normalement. Et les années passent et maintenant une dizaine d'années ont passé de guérison totale. Sur les conseils du neurologue, je viens de repasser un IRM dans le centre qui m'avait reçu la première fois pour que ce soit le même professeur avec le même matériel qui avait donné son diagnostic. J'ai donc à présent une preuve médicale irréfutable de la disparition de toute trace d'une quelconque poussée. Je garde précieusement les deux documents de l'avant et de l'après maladie, ne cessant de remercier Dieu d'une telle grâce dans ton cœur, dans ton âme. Peut-être que c'est une sclérose en plaques dans ton corps ce matin, ou la maladie de Lou Gehrig, ou peut-être que c'est une paralysie du cœur ou de l'âme, ou peut-être que c'est une dépression, ou peut-être que c'est quelque chose qui est relationnel, je veux te déclarer ici, ce matin, dans ce lieu, cette semaine, ce mois-ci, cet automne, nous voulons déclarer par la foi, il est le Dieu qui guérit, et il est capable de guérir encore, ici, à la maison, à l'Église Nouvelle Vie. Applaudissez la grâce et la grandeur d'un Dieu qui ne change pas. Dans ce deuxième message, je vous encourage à écouter gratuitement sur Internet le premier message pour avoir l'ensemble du message. Nous regardons à l'endroit dans les Écritures, dans l'Exode, le 15e chapitre, où Dieu s'est révélé comme étant le Seigneur qui guérit. Nous avons vu ensemble le contexte et la compréhension de cette promesse, et également ce que nous appelons le choix et le Christ au cœur de cette promesse. Et nous allons voir ce matin les contrastes et conquêtes de cette promesse, ou les 10 sphères de guérison par Jéhovah Rapha. Lorsque vous voyez, il est le Seigneur ou l'Éternel qui guérit dans l'Ancien Testament, Jéhovah, Rapha, le mot Rapha est utilisé 60 fois dans l'Ancien Testament. Et pour la première fois dans la Bible, dans notre texte de Exode 15. Et c'est un mot à plusieurs ramifications. Lorsque vous voyez la pensée de guérison dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, il y a une pensée de guérison physique, mais de plus que cela, wholeness, wellness, de bien, de guérison, de restauration, de rétablissement, de rebâtir dans chaque aspect de nos vies. La vie abondante que le Seigneur a pour nous est une vie où il veut, il désire apporter guérison à chaque jour, dans chaque aspect de nos vies. Lorsque vous voyez le mot Rapha, il va être utilisé dans plusieurs contextes. Dans un contexte de réparer, par exemple, un vêtement déchiré. Et encore aujourd'hui, Dieu peut guérir. Il est le Seigneur qui guérit ce qui a été déchiré. Relationnellement, humainement, familial, conjugal, parents, enfants, socialement, il y a dans la foi en Dieu et dans l'obéissance à Dieu une guérison possible où Dieu peut ramener ce qui a été déchiré. Que ceux qui ont vécu des guérisons là où il y avait déchirement disent amen dans ce lieu ce matin. Rapha, rétablir, rebâtir, réparer. C'est réparer un vêtement déchiré, c'est rebâtir ce qui a été détruit. Dans 1 Rois, chapitre 18, Élie a réparé, rebâti, Rapha, il a rebâti, Rapha, l'autel de Dieu qui avait été abattu. Il y a plusieurs personnes pendant l'été. À chaque année, c'est ainsi, mais cette année, il y a une onction particulière. Il y a beaucoup de gens pendant l'été, vous êtes ici ce matin, qui ont commencé à revenir à l'Église Nouvelle Vie, quelques réunions, peut-être avec un tout petit peu, quelques gouttes d'espoir qui restent. Des gens qui viennent parce que leur vie chrétienne a été démolie. Là, ils ont été déçus, ils ont été abattus, ils ont connu des échecs. Et c'est difficile de croire, c'est difficile, ils ne savent même pas, ils viennent et je reçois les courriels et des gens qui ont eu conflit, qui ont eu déception, et là ils commencent à revenir, il y a tout un combat spirituel qui essaie de vous garder en arrière et vous faites un pas à l'avant, j'aimerais. Il y a des gens là-dedans qui n'ont absolument aucune maladie physique, ils n'ont pas besoin, en ce moment, ils ne sont pas en train de prier pour une guérison d'une maladie physique, mais je veux vous dire que Jéhovah Rapha est là pour toi, il n'est pas seulement celui qui vient réparer ce qui a été déchiré. Il est aussi celui qui est capable de rebâtir ce qui a été détruit. Lorsque Élie a rebâti l'autel de Dieu, il dit à chacun d'entre nous, il est capable de rebâtir ta louange, capable de rebâtir ta foi, capable de rebâtir ta vie de prière, capable de rebâtir ton ministère, capable de rebâtir quoi? Ce que l'ennemi a essayé d'abattre, Dieu est capable de le rafa et de le rebâtir. C'est de venir réparer ce qui a été déchiré. C'est venir rebâtir ce qui a été abattu et Rapha est également rétablir un état de santé, de bien-être, d'épanouissement, de guérison physique et aussi dans chaque sphère de notre être. Ce qui est malade va être guéri. Je suis l'Éternel qui te Rapha, qui peut et qui va te guérir, qui t'a guéri, te guérit et qui t'offre une guérison qui ultimement sera éternelle. Lorsque Jésus est entré, et lorsque Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui le salut entre dans ta maison, sozo. La guérison, le pardon, la grâce, le salut, le bien-être, la restauration, le rétablissement, la santé maintenant peut entrer dans chaque aspect de ta vie. Je dirais de cette façon, quelqu'un qui est né de nouveau, qui est croyant, quelqu'un qui est un chrétien et qui appartient au Seigneur, a une guérison immuable, une guérison éternelle qui ne pourra jamais lui être enlevée. Nous allons vivre nos vies sur cette terre et dans toutes sortes d'aspects de nos vies, rechercher certaines guérisons et des guérisons dans tous les aspects de nos vies. Et nous aurons des moments où nous aurons des guérisons, des maladies physiques qui menacent notre vie. Et nous allons prier le Seigneur pour cette guérison. Mais quelle que soit la guérison que nous allons recevoir sur la terre, guérison physique, et souvent, nous allons mettre notre foi en Dieu pour croire, pour recevoir nos guérisons physiques, ceux qui sont malades dans ce lieu ce matin. Mais quelle que soit la guérison physique que nous allons recevoir, cette guérison-là est la moindre guérison. Parce que c'est une guérison qui est temporaire. C'est une guérison qui n'est pas pour toujours. La dernière fois qu'on a surveillé, la dernière fois qu'on a vérifié, qu'on a fait un sondage, le taux de décès chez les êtres humains était pas mal à 100%. Est-ce que vous comprenez? Lazare a été guéri, mais il est mort d'autre chose. Nous allons tous vivre nos vies sur cette terre et à différents moments, la Bible dit, il est appointé à chaque personne de vivre sous la main de Dieu. Et le Seigneur sera le guérisseur, sa guérison dans chaque aspect de sa vie. Mais à chacun d'entre nous arrivera un moment selon les desseins et les plans parfaits de Dieu. Un moment où il est appointé à chaque personne de quitter ce corps et d'entrer réellement dans sa vraie et sa grande et son éternelle guérison. Sa guérison parfaite dans les bras de Dieu. Lorsque nos vies sur cette terre, et nous sommes des fourmis, nous sommes des êtres tellement limités qui parlons de concepts d'éternité, qui nous sont tellement, nous vivons de manière tellement éphémère, tellement temporaire. Mais là-bas, quelles que soient les années qu'on va avoir sur cette terre, ce sont des années qui sont une infinie petitesse en comparaison à la guérison éternelle que nous allons avoir. Un jour, j'étais assis dans l'église, il y a quelques semaines, j'écoutais le pasteur Denis prêcher, ou un autre des dimanches que j'étais assis dans la salle, puis je regardais en avant. Et je regardais à ceci, peut-être vous allez dire, tu aurais dû regarder le pasteur, mais je regardais un peu partout autour. Et si vous, est-ce que vous voyez ici, pour moi, là, j'étais assis à votre place, puis je voyais comme une ligne. Voyez-vous ceci comme une ligne? Il y a juste une ligne. Et l'être humain qui vit 20, 30, 50, 70, 80 ans, 100 ans, 102 ans, au banquier, dans quelques semaines, il va avoir un homme avec Julie qui a 102 ans. Mais qu'il vive 50, 30, 40, 60, 70, 80, 100, 102. Je veux que vous compreniez que ça, là, toute notre vie, notre univers, toutes nos préoccupations, notre vie entière, c'est un millimètre, c'est 100 ans, c'est un millimètre en comparaison à la guérison éternelle que tout être humain va recevoir et dont il va bénéficier à partir du moment où il va être avec Dieu pour l'éternité. Et un minimum. Ça va être 40, ça va être 50. Est-ce que je vais être guéri? Je vais vivre jusqu'à 60. Est-ce que je vais être guéri? Je vais vivre jusqu'à 80. Est-ce que je vais être guéri? Je vais vivre jusqu'à 90. Peut-être je vais vivre jusqu'à 98 ou à 58 ou 50. Tout cela, c'est à l'intérieur, dans les plans parfaits de Dieu, d'un millimètre. Un millimètre qui est ici et qui, par la suite, si vous pouvez essayer d'imaginer tout ça à l'intérieur d'ici, en comparaison à la ligne que vous voyez là, regardez-la à l'infini de la guérison que nous allons avoir en Dieu, du rapprochement et du retour que nous allons avoir dans la relation avec ceux que nous avons connus sur cette terre, qui connaissaient le Seigneur, avec lesquels nous allons être réunis pour l'éternité. J'aimerais dire à chaque croyant ici, nous avons foi pour des guérisons physiques et dans chaque aspect de nos vies, mais il y a une guérison que je ne pourrai jamais perdre. Celle-là, elle est certaine. Celle-là, elle est garantie. Celle-là, elle est déjà à moi et personne ne peut me l'enlever. Mon nom est écrit dans le livre de vie et bientôt, je vais être guéri pour toujours. Quelqu'un devrait dire oui. That's the hope of glory. Lorsque nous regardons à notre texte, nous avons vu la compréhension de cette promesse et le choix et le Christ au cœur de cette promesse. Lorsque le peuple a sorti d'Égypte à travers des miracles extraordinaires, la main miraculeuse de Dieu jusqu'à la séparation de la mer Rouge et toute l'action surnaturelle, miraculeuse de Dieu, Dieu les amène à un endroit qui s'appelle Mara. Et à cet endroit-là, il va se révéler « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Et ce n'est pas un moment dans la vie du peuple où il y a une épidémie et tout le monde est malade. Il n'y a pas de maladie physique mentionnée dans le texte. Et bien sûr, la promesse de Dieu est pour une guérison physique, mais elle est pour bien au-delà de cela. Et dans ce texte-ci, c'était quelque chose que Dieu voulait aller chercher dans leur cœur. Il les amène à un endroit, un désert, le désert de Shur, qui veut dire mur. Il les amène à un mur qui devient un miroir et à des eaux, Mara, parce qu'il veut, la Bible le dit, à ce moment-là, il va les mettre à l'épreuve. Il va aller chercher quelque chose dans leur cœur. Ce peuple, ces hommes, ces femmes qui avaient connu les miracles après miracles, mais qui immédiatement après chaque miracle retournaient à leur péché, retournaient à leur incrédulité, retournaient à leur rébellion, retournaient à leur endurcissement, retournaient à murmurer et à blâmer. Et Dieu les amène à Mara et il dit, si, il dit à Moïse, prends le bois qui est là et le bois à travers toutes les Écritures qui représentent le bois, la croix, Christ lui-même, la branche qui nous guérit. Il dit, prends le bois, prends Christ, mets-le dans ce qui est amer. Et il dit, observe le commandement. Ce n'était pas les 10 commandements qui vont venir plus tard. C'était le commandement de la Pâque, de te placer sous l'agneau et sous le sang. Et ce que Dieu veut amener chaque croyance à un endroit où à chaque jour je vis avec une confiance, je prends le bois, je prends Jésus et je le mets dans ma sphère de maladie avec confiance. Et à chaque jour je vis sous le sang de l'agneau afin qu'il puisse devenir le Seigneur qui me guérit dans chaque sphère de ma vie. Et là, dans le même texte, il dit, la foi, cette vie-là, cette vie de foi, où le bois vient adoucir ce qui est amer, et où l'agneau vient te couvrir et te guérir, t'amène en ce jour un morceau de bois, nous dit Ésaïe, la diapo 7, un morceau de bois sortira du trône d'Ésaïe, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, qui sera la guérison des nations. Et alors le Seigneur, alors qu'il les appelle à une foi où je mets ma confiance dans l'agneau, où le bois, la confiance, la croix, ce que Dieu a fait pour moi est au centre à chaque jour de ma vie, pour qu'il guérisse chaque sphère de ma vie. Il leur dit, maintenant, je vais vous faire une promesse. Maintenant, je vais vous donner 10 sphères dans lesquelles je veux vous guérir. Et une promesse extrêmement importante à comprendre. Lorsqu'il dit à la diapo 8, si tu prêtes l'oreille à ce commandement et tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est extrêmement important que vous compreniez bien. Il y a des chrétiens partout dans le monde qui sont devenus amers, qui ont abandonné la foi, qui blâment Dieu, qui sont amers contre Dieu parce qu'il n'a, selon eux, pas répondu à une promesse que je crois que Dieu n'a jamais faite. Le texte ne dit pas, Dieu ne dit pas, si tu es chrétien, si tu as confiance en moi, je te guérirai de toutes tes maladies en tout temps, pour toujours, toutes tes maladies, en tout temps, pour toujours. Parce que si c'était le cas, il y a depuis 2000 ans, il y aurait des chrétiens qui ont 2000 ans d'âge. Et chacun d'entre nous serait 200, 300, 400 ans, on vivrait pour toujours. La Bible, la même Bible qui enseigne « Je suis éternel qui t'a guéri » enseigne et t'a pointé à chaque personne de vivre une fois et de vivre sur cette terre. Et tout ce millimètre que je vous ai montré sur cette terre, nous allons accomplir plein de choses, mais c'est en préparation pour une vie d'éternité avec Dieu. Il y a dans le texte une promesse extrêmement importante où il dit, vous êtes mes enfants, je suis éternel, te guéri, je ne mettrai pas sur vous, je ne vous infligerai pas les plaies qui ont été sur les Égyptiens qu'on va expliquer dans un instant. Mais il y a trois sphères de maladies de tribulation, de problème, de malaise, de maux, de douleur dans la vie d'un être humain. Il y a des problèmes, des difficultés, je vous le dirais de cette façon, pour aussi pour les nouveaux chrétiens, mais les chrétiens de longue date qui ont besoin d'entendre aussi, peut-être qu'ils l'ont oublié. Il y a un type de difficulté, de maladie, de problème, de maux qui est propre et unique aux chrétiens. Il y a des douleurs que les chrétiens ont que les non-chrétiens n'ont pas. Vous dites, c'est quoi le deal? Je vais vous l'expliquer. La Bible dit qu'il y a des persécutions qu'un chrétien va avoir, qu'un non-chrétien n'aura pas. Certains d'entre eux, tout le monde ici, à travers le monde, il y a des chrétiens en ce moment qui meurent, qui se font mettre à mort depuis 2000 ans, qui se font mettre à mort parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des choses qui, Jésus a dit, si moi, ils m'ont crucifié, si vous marchez avec moi, celui qui veut marcher avec moi doit prendre sa croix. Et Jésus a toujours dit que, quelle que soit la mesure de persécution que je vais avoir, elle ne sera qu'un iota infime en comparaison au centuple de la bénédiction qu'il y aura à marcher avec Dieu. Mais il y a tout le monde ici a vécu ou va vivre des moments d'injustice, des moments où tu es maltraité, des moments où tu es méprisé, des moments où tu es incompris, des moments où tu vas obéir, des moments où tu vas te priver de quelque chose, des moments où tu vas relâcher, où tu vas pardonner, par exemple, des moments où il peut y avoir temporairement des moments même de douleur, de persécution, de mépris, qui est seulement parce que tu es chrétien. Il y a un christianisme moderne qui cherche à vivre une vie chrétienne où vous ne marchez pas comme Christ, où je veux une vie, mais je veux pas une vie incognito, une vie où je vais chercher seulement les bénédictions. Je veux déclarer que Dieu appelle une église à dire « Oui, je suis chrétien ». Parfois, il y aura persécution. Parfois, il pourrait y avoir opposition. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je suis fier d'appartenir à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des problèmes et difficultés qui sont même propres aux chrétiens. Il y a des problèmes et difficultés qui sont communs à tous les hommes. 1 Corinthiens 10 dit, il y a des problèmes qui sont communs à tous les hommes. Il va pleuvoir sur celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Il y a des choses qui sont communes. Tous ceux qui sont entre vous qui êtes ici, lorsque la récession a frappé, si vous étiez un investisseur avec Norbourg ou quelqu'un comme ça, vous avez perdu des choses sur papier, que vous soyez chrétien ou non. Il y a des choses qui sont dans ce monde. Mais encore une fois, lorsque Pierre a dit, Seigneur, on a tout quitté pour te suivre, le Seigneur a dit, il n'y a rien que vous ayez quitté qui ne vous sera pas rendu au centuple sur cette terre et dans le ciel aussi. Alors, il y a des choses qui sont communes à tous les hommes. Il y a des choses qui sont spécifiquement pour croyants, et des attaques ou des douleurs qui sont communes à tous les hommes, il y a des attaques, des douleurs, des maux, des tourments, des captivités qui sont pour ceux qui refusent Dieu, pour ceux qui sont rebelles à Dieu, pour ceux qui vont résister à son message, pour ceux qui veulent vivre sans lui. Et c'est ce que Dieu promet dans ce texte. Il dit, si vous êtes mes enfants, si vous marchez avec moi, si vous marchez sous l'agneau, avec les yeux sur le bois et sur la croix et la foi que vous avez en Dieu, il y a des maux, il y a des plaies, il y a des captivités dans ce monde qui vous entoure, qui a peut-être frappé 3 générations derrière de toi, jusqu'à toi, frappé à ta gauche, frappé à ta droite. Il y a des choses qui font souffrir les gens partout autour de toi. Et si tu marches dans cette foi avec moi, je vais t'apprendre, je peux et je vais te préserver, te protéger et te guérir parce que tu n'es pas de ce monde. Maintenant, tu es dans ce monde, mais tu es mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille, et ces plaies qui sont sur eux ne seront pas sur toi, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous me suivez? 10 plaies. Les 10 plaies représentent beaucoup de choses. Les 10 plaies d'Égypte, vous les lirez à la maison dans le livre de l'Exode. Ils représentent beaucoup de choses, et le peuple de Dieu représente notre marche avec lui. Lorsque vous regardez, on va regarder la diapo 9, regardez à ce peuple, vous allez voir les étapes. Comprenez bien les caractéristiques du peuple qui a reçu la promesse, parce que nous sommes ce peuple encore aujourd'hui. Ils sont appelés dans Exode 5, « Laisse aller, mon peuple, va devant l'ennemi, va devant le destructeur, va devant Pharaon qui représentait l'ennemi, destructeur, la mort. » Et lui dit, un homme de Dieu qui se lève et qui dit, « Tu vas laisser aller mon peuple. » Et j'espère que vous comprenez à une semaine de l'anniversaire que c'est ça la vision de l'Église Nouvelle Vie. On n'est pas ici pour jouer à l'Église, on n'est pas ici pour chanter des chansons, on est ici à chaque semaine pour aller devant l'ennemi de ceux qui détruisent les armes et lui dire, « Tu vas laisser aller mon peuple. » On a commencé avec une poignée de personnes et des milliers de personnes plus tard. Notre soif est insatiable. On va voir des hommes et des femmes être guéris et être libérés. Ils sont accablés ce peuple avec des fardeaux, mais Dieu veut les guérir. Ils sont attaqués dans leur foi. Pharaon a dit, ce sont des paresseux. C'est pour ça qu'il crie en disant, allons offrir des sacrifices à Dieu. Il dit, accablez-les encore plus pour qu'ils ne se préoccupent plus de ces faussetés. Nous sommes appelés à être libérés. Nous sommes accablés sans lui. nous sommes attaqués dans notre foi. Nous sommes attaqués. Vous rencontrez des gens chaque jour. Vous voyez dans les médias. Vous avez autour de vous des gens qui ont toujours cette perspective. Pharaon a dit, ils ont besoin d'une béquille. Ils n'ont pas de force en eux-mêmes. C'est des paresseux qui croient des choses qui sont des faussetés. Et le croyant, encore en 2009, vit avec cette attaque qui est là. Cette attaque même qui est insidieuse, parce que ce qui est arrivé, c'est que lorsque Dieu a donné une capacité, lorsque Pharaon a fait quelque chose de miraculeux devant le Pharaon a rassemblé ses sages. Il appela les sages, Exode 7, 11, les sages d'Égypte. Ils en firent autant par leur pratique de ce que Pharaon avait fait. C'est une société méprisante qui dit, toi, tu attribues ça à la foi. Vous l'avez vécu, vous dites à quelqu'un, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Regarde ce que, mais nous autres, ça, on fait pareil. À travers ma philosophie, à travers la science, à travers ceci, on est capable de faire pareil. T'as fait ça. Non, c'est pas la foi, c'est pas Dieu. Et Dieu dit, au milieu de tous ceux qui prétendent faire, et prétendent accomplir dans l'être humain ce que moi, je veux faire. Je vous annonce que je m'apprête, à travers les 10 plaies, je m'apprête à anéantir chacune de leurs idoles et je veux faire quelque chose dans des êtres humains qui est tellement unique, tellement guérissant, tellement merveilleux. Dieu veut faire quelque chose en toi où il te guérit dans toutes les sphères de ta vie et ta vie devient quelque chose que même les plus endurcis, s'ils ont un brin de sincérité, vont voir seulement Dieu pouvait faire ça. Il y en a un éternel, il y en a un Seigneur. Il n'y en a pas d'égal. Rien de ce monde ne peut égaler ce que Dieu peut faire dans un être humain. Je vais anéantir par ma main puissante. Je suis l'Éternel qui te guérit. 6:1, l'Éternel des Amoïs, tu vas voir. C'est par ma main puissante que je vais libérer le peuple de cette emprise au temps de 2009. Par sa main puissante, je le déclare prophétiquement, il va te libérer de l'emprise qui te tenait. Il va libérer des hommes et des femmes de l'emprise qui vous tenait par sa main puissante. Ils vont apprendre que le Tout-Puissant est aussi l'Éternel. Manquez pas ceci, 6:3. Dieu parlait, et Exode 6:3 apparaît à l'écran, la diapo 11. Dieu parlant encore à Moïse, il lui dit, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu sous mon nom, je suis l'Éternel. » Dieu dit, « Je veux te montrer de nouvelles facettes de qui je suis. » L'œuvre de Dieu dans nos vies ne doit jamais être un monument. L'œuvre de Dieu doit être un mouvement. Je découvre des nouvelles facettes de Dieu. Jamais une relique, toujours une révélation. Ah, ça, c'était bon. Moi, j'ai aimé ça quand je l'ai préparé. Je m'attendais à ce que vous disiez « Amen » plus que ça. Ben, moi, je me dis « Amen » moi-même dans mon bureau, mais des fois, je m'attends à ce que vous disiez « Amen » aussi. Je le dirais de cette façon. Je vous donne une chance de qu'on se réconcilie. Je vous dirais ceci. Ne mettez pas un point lorsque Dieu veut juste mettre une virgule. En ce moment, il y en a qui ont mis un point, c'est fini. Je peux pas m'en sortir. Je peux pas être guéri. Point final. Dieu dit, mets pas un point. Moi, j'ai mis une virgule. Tu me connaissais comme El Shaddai. Maintenant, tu vas me connaître comme le Seigneur qui t'a guéri. Quelqu'un devrait dire oui. Dieu confronte les 10 idoles d'Égypte. Je prendrai pas le temps de vous traverser, mais ce qui est fascinant, c'est que chacune des 10 plaies d'Égypte adressait, confrontait une idole, une fausse idole, une idolâtrie de l'époque, de fausse déité, de déité masculine ou les déesses de l'époque. Et chacune d'entre elles avait les festivals attiraient des millions de personnes qui mettaient leur confiance dans ça. Si vous regardez les 10 plaies, le Nil qui se transforme en sang, les grenouilles moustiques, mouches venimeuses, la peste et le bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la mort des premiers-nés, chacune d'entre eux, Osiris, Ménéisis, Horus, Hathor, Ré, Seth, Eket, Api, chacun était une déité. Et à travers chacune des plaies qui arrivaient, Dieu disait, le moment est arrivé. La semaine prochaine, ne manquez pas le message. L'Église qui devient un signe, qui devient un signal qui annonce ce que Dieu va faire. La bannière Nissi, le signal de Dieu. Mais voici, chacune de ces plaies-là représente quelque chose. Représente une déité et Dieu arrivait et amenait à le peuple à une réalisation du vide de chacune de ces déités. Et les 10 plaies représentaient aussi les 10 sphères de guérison que Dieu veut faire en nous, que Dieu veut accomplir dans chacun d'entre nous. Lorsque l'eau était tournée en sang, il disait, « Je suis l'Éternel qui va vous guérir de votre culpabilité. » Dans les temps de guerre de l'époque, c'est un symbole que les milliers de morts, et vous avez vu des scènes de guerre de l'époque qui étaient des guerres personne à personne. Lorsque l'eau des rivières devenait rouge, pourpre, du sang des victimes et toute la honte qu'il y avait. Et des livres d'histoire qui parlent de la rivière qui a coulé avec le rouge du sang bien longtemps après que la bataille. Ceux qui ont grandi en ce moment, ceux qui reviennent d'Irak et qui ont versé le sang, et les milliers de soldats qui reviennent aux États-Unis tourmentés et que dans la confusion, dans le tourment, dans leur pensée, dans la culpabilité d'avoir versé le sang. Et Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit de la culpabilité, quel que soit ce que tu as fait, qui pourrait et qui devrait et qui t'avait tourmenté et la culpabilité qui a été un joug sur toi. Je suis l'Éternel qui peut te guérir de ça, te laver de ta culpabilité et à chaque jour te faire marcher sous un pardon et une grâce que tu es un enfant de Dieu. Je suis les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses qui parlent de l'Éternel, qui dit « Je suis l'Éternel qui t'a guéri des coups constants, du cumulatif. » Lorsque les premières grenouilles ont apparu, c'est rien, mais c'était la constance. C'était l'accumulation. La même chose avec les mouches, la même chose. Et il y a une colère, il y a une frustration, il y a un épuisement. Il y a des gens partout autour de vous qui font des choses terribles. Je n'en nommerai pas ça, des choses qui prennent place même dans l'actualité en ce moment. Mais même parfois dans les lettres de suicide de personnes qui se sont enlevées la vie, ils te donnent comme raison quelque chose qui semble tellement pas si gros que ça. Ça semble petit, mais c'est l'accumulation. L'accumulation, l'incapacité de s'en sortir, puis une chose et une autre et une autre, et la pression de la vie. Et Dieu dit, il y a quelque chose de différent pour mes enfants. Si tu appartiens à Dieu, si tu marches sous l'agneau, si tu as les yeux sur moi, je suis l'Éternel qui te guérit, et je te rends capable à tous les jours de me remettre tout cela. Pas d'accumulation, mais une fraîche force, une fraîche paix, une fraîche onction, et je peux te guérir de cette plaie d'accumulation qui t'a fait craquer et faire de l'enfant de Dieu quelqu'un qui marche dans la paix. Je vais te guérir. Chacune des plaies, une sphère de guérison que Dieu veut faire. Et chacune d'entre eux représente des choses qui touchent des vies, des choses dans vos vies aujourd'hui. La peste du bétail, la plaie de la peste du bétail nous guérit de la contamination de la comparaison. Le bétail, dans l'Ancien Testament, représentait ton statut social. Puis, c'est pour ça que vous avez même le nombre de têtes de bétail. Ça représentait à quel point tu étais riche. C'était comme si aujourd'hui, on marcherait en montrant à tout le monde nos comptes de banque. Comme si tu te promènes aujourd'hui, regarde comment j'en ai. Oh, regarde, le bétail représentait ton standing, ce que tu avais accompli, qui tu étais. Et ça représente aussi la vie de torture de tous ceux qui passent leur vie toujours à se comparer. Des gens qui sont ici, qui ont une différence entre une soif de réussite qui peut être saine, mais il y a une perpétuelle insatisfaction qui détruit des mariages, détruit des couples, détruit des hommes, détruit des femmes, même dans les choses matérielles, mais aussi dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, des gens qui ne sont jamais satisfaits, toujours plus. Il y a un vide du cœur, il y a une frustration qui peut t'amener à des actions horribles parce que tu es perpétuellement insatisfait. Dieu dit, si tu es mon enfant, je suis l'Éternel qui te guérit. Je veux te guérir de ça. Je veux t'amener à une place où tu trouves ta paix dans qui tu es. Tu n'as plus rien à prouver parce que tu es approuvé de Dieu. Et ta paix, ta satisfaction, et dans ce que je te donne en ce moment, et dans les choses éternelles qui ne peuvent pas t'être enlevées. Quelqu'un devrait dire oui. Les 10 sphères de nos vies, éternel, qui te guérit. Chacune des plaies, les ulcères, il nous guérit des coupures, cicatrices de la condamnation. Dans l'Ancien Testament, la plaie représentait souvent la honte, la maladie qui apparaissait avec une plaie physique qui amène une honte de culpabilité. Il y avait des coutumes comme aujourd'hui dans notre époque où on marquait des gens, où on marquait les bébés à leur visage, sur leurs mains. Des plaies étaient mises sur eux qui représentaient un standard social plus bas. Souvent, ceux qui marquaient en le marquant abaissaient et mettaient une honte sur quelqu'un pour toujours. Et il y a bien des gens assis dans cette salle qui n'ont pas de marque physique sur leur corps, mais il y a une honte qui a été mise sur vous. Et Dieu dit, je suis l'Éternel qui veut te guérir de ça et je veux relever ta tête et t'apaiser. Et quel que soit ce que 4 générations en arrière de toi ont été jusqu'hier, les choses peuvent et vont être différentes dans ta vie. Je suis capable de te guérir de tes cicatrices et de te permettre de t'épanouir en moi. Je suis l'Éternel qui guérit en chaque sphère de la vie. En chaque sphère de la vie. La grêle et les sauterelles nous guérit de la crainte lorsqu'ils voient arriver les nuages. Loin, longtemps, souvent des jours à l'avance, à la pire distance, voient arriver les nuages de sauterelles, voient arriver les nuages locustes qui s'en venaient dévorer. Dévorer leur récolte, dévorer leur avoir, la crainte. Qu'est-ce qui s'en vient sur moi? Je suis l'Éternel qui t'a guéri de la confusion, les ténèbres qui ont venu sur le pays, qui nous fait perdre le chemin. Je suis l'Éternel qui peut te guérir de nous rendre capables dans ce qui nous est, ce qui est le plus cher à nos cœurs. la plaie à travers la mort des premiers-nés, de toucher ce qui est le plus précieux dans les cœurs. Et Dieu dit, je ne vous soumettrai pas, vous ne serez pas sous la plaie des Égyptiens. Je suis capable de te libérer. Il y a des gens qui sont ici, qui connaissent cette peur-là. Je ne suis pas capable d'être un père, je ne suis pas capable. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Qu'est-ce que je vais faire avec mes ados? Comment je vais faire? Je ne sais pas moi comment faire, je ne sais même pas comment faire. Et Dieu dit, tu es mon enfant, tu m'appartiens à moi. Tu as une crainte pour ton premier-né, tu as une crainte pour ta capacité de communiquer les choses que tu voudrais communiquer. Mais je suis le père de l'orphelin et je suis capable, moi, de te guérir de cette plaie. J'étais au Colorado il y a quelques semaines, j'ai assis à une table du dîner avec la fille de Nicky Cruz. Et les petits-enfants de sa fille dans le ministère mariée, ses petits-enfants qui étaient là, étaient venus à l'église. Beaucoup de jeunes chrétiens ne connaissent pas Nicky Cruz. Il fait partie de l'histoire de la croix et le poignard. Un jeune homme qui était, dans les années 50, comme une bête, comme un loup. Il était dans une gang de rue de New York. Il s'abattait, il poignardait. Il était un être complètement désaxé, qui n'avait aucune morale et qui n'avait rien. Et qui est venu à Dieu et que le Seigneur a dit, « Tu m'appartiens maintenant et je suis capable de te rendre capable d'être un père, d'être un grand-père. » J'étais assis là avec sa fille magnifique, son mari, tous ses enfants marchent avec Dieu, ses petits-enfants qui étaient là, un grand-papa, Nicky Cruz, un homme fiable, un homme de conviction, parce que quel que soit ce que tu as été, l'Éternel qui te guéri peut faire de toi quelqu'un d'autre. Je suis l'Éternel qui t'a guéri. Je suis l'Éternel qui t'a guéri. Et très simplement, voici comment. Voici comment, dans chaque sphère de ta vie, alors que les musiciens s'approchent. Dieu dit dans notre texte, je suis l'Éternel qui t'a guéri. C'est très, très, c'est une vie, c'est une poursuite à travers ses principes et ses pratiques toutes simples. Voici pour que l'Éternel qui t'a guéri devienne réalité dans chaque sphère de ta vie. Dans chaque sphère de ta vie, il faut reconnaître le besoin. Lorsqu'ils sont arrivés, les eaux étaient amères, ça a l'air très simple. Ils ont frappé un mur, ils ont le désert du mur, et lorsqu'ils ont vu les eaux amères, la Bible dit, ils appelèrent les eaux Marah, car elles étaient amères. J'aimerais vous dire, comme conseiller qui a fait de la relation d'aide, et que j'en fais encore depuis des années avec des gens depuis toujours, et chaque conseiller sa relation d'aide vous dirait qu'une des choses parfois les plus difficiles et qui bloque le plus les gens d'être guéris, c'est qu'ils ne sont pas capables d'appeler les choses telles qu'elles sont. Pas capable de dire « j'ai besoin de guérison » dans cet aspect-là de ma vie. Je ne parle pas de guérison physique dans cette dimension-ci. Je parle particulièrement de guérison du cœur, guérison d'attitude des gens dont la colère ruine toute leur vie depuis toujours, mais on n'est pas capable de les amener à une réalisation que cette habitude-là te détruit, que cette attitude-là, que si tu arrives simplement avec humilité, au lieu d'avoir les mains levées et de justification, rationalisation, blâmer les autres, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, je suis moins pire qu'avant, mon père était pire et elle est pire. Et que tu t'arrêtes et que tu dis « l'eau est amère ». Il y a quelque chose qui est arrivé à ma louange, il y a quelque chose qui est arrivé à ma vie, il y a quelque chose qui se passe, il y a cette colère, il y a cette attitude, cette chose. Si tu appelles, Dieu est là dans toute sa puissance, et si tu appelles les choses telles qu'elles sont et que tu es prêt à les reconnaître, le ciel entier s'ouvre et l'Éternel qui t'a guéri va pouvoir agir. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître et il faut rechercher Dieu, remettre à Dieu. Il y a un choix dans le texte. Le peuple, lui, a murmuré, mais Moïse, lui, a crié à l'Éternel. Puis lorsqu'il a crié à l'Éternel, il a pris la situation, la maladie, la douleur, il l'a remis à Dieu. Dieu est venu par sa puissance. Et l'eau a été lancée dans ce qui était amer, qui est devenu doux. Et l'agneau a couvert. Le choix est encore pour nous aujourd'hui. Lorsque nous murmurons, encore une fois, je ne parle pas d'une maladie physique seulement. Mais quelle que soit la maladie, quel que soit le mal, le besoin de guérison en nous, lorsque nous ne faisons que murmurer aux autres, non seulement nous n'ouvrons pas le chemin pour être guéris par Dieu, mais nous répandons la maladie sur les autres. Alors moi, j'ai été blessé, moi je souffre. Dans mon amertume, dans mon murmure, dans mes doutes, dans mes colères, je fais souffrir les gens autour de moi. Je vais éroder la foi de ceux qui m'entourent. Je donne un portrait de Dieu terrible aux gens qui m'entourent. Et lorsque Moïse est entouré de ceux qui murmurent, plutôt que de se joindre à eux, il se met à crier à l'Éternel. Il le remet à Dieu. Et alors qu'il le remet à Dieu, il voit ce qu'il n'avait pas vu auparavant. Il le remet à Dieu et le bois. Il prend le bois que Dieu lui indique. Et beaucoup d'entre nous pourraient vous témoigner sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'à chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, tu en ressors que Dieu t'a fait voir quelque chose que tu n'avais pas vu avant. Il t'a apaisé, il t'a guéri, il t'a rendu capable de guérir d'autres. Quelqu'un devrait dire oui. L'Éternel qui nous guérit. Je vais lui reconnaître, je vais remettre. Je vais aussi, et là c'est bien important de donner une dose de sagesse, il faut résister, il faut remettre, il faut reconnaître, il faut remettre à Dieu. Exode 15, 25, il faut résister à ce qui nous vole la guérison. C'est là que l'Éternel donna au peuple des principes et ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve et lui dit, « Si tu écoutes la voix, attentivement à la voix de l'Éternel, je serai l'Éternel qui te guérit, Jéhovah Rapha. Si tu écoutes attentivement, il faut remettre, il faut reconnaître, il faut résister à ce qui peut nous voler la guérison. » Lorsque dans le Nouveau Testament, sur la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul enseigne sur la communion, il dira que chacun s'examine soi-même. Et parce qu'il y a des gens qui refusent de s'examiner soi-même, il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des gens qui sont malades, il y a plusieurs qui sont malades. Le problème dans le monde chrétien moderne, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui s'examinent soi-même, mais il y a énormément de gens qui se donnent l'appel et le ministère d'examiner les autres. Est-ce que vous me suivez? Les gens, à chaque fois que quelqu'un, ceux qui sont malades dans ce lieu, ont tous vécu. Moi, ça me rend fou à chaque fois qu'ils me le disent. Ils ont tous vécu un chrétien qui arrive et dit, « C'est peut-être parce que tu as du péché dans ta vie. Ça veut dire parce que tu as du péché, tu n'as pas assez de foi, tu as du péché. » Quelqu'un qui examine les autres. C'est assez fascinant et triste de voir des gens qui, eux, ont un cœur pur devant Dieu venir sous la condamnation, alors que celui qui devrait s'examiner soi-même examine les autres et est complètement aveugle à ce qui doit changer en lui. Personne ne dit « Amen, mais c'est super bon qu'est-ce que je viens de prêcher là. » Voici ce qui est important. Dans le domaine de la guérison physique, vous avez besoin de refuser toute condamnation, puis de continuellement, simplement vous mettre dans les mains de Dieu, lui remettre votre situation, vous remettre votre condition. Mais dans plusieurs domaines de nos vies, il y a des choses qui sont malades puis qui devraient être guéries, et nous savons ce que Dieu nous demande de faire, qu'on devrait arrêter, qu'on devrait cesser et qui amènerait. Nous savons les obstacles à la guérison qui sont là, que nous refusons, que chacun s'examine soi-même. Lorsqu'il dit, si tu écoutes mon commandement, c'est pas de l'entendre, mais de t'endurcir et de rien faire. C'est dans un terme, dans un cœur d'obéissance, et je me dis, Seigneur, je veux te remettre ce qui est malade en moi qui a besoin d'être guéri. Je veux le remettre à toi, je veux le reconnaître, et je veux que tu me montres, est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment? De l'amertume à quoi que ce soit d'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche le flot de guérison? Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, qu'on enlève les obstacles afin que le flot soit rétabli, que la guérison nous remplisse. Je reconnais, je remets, je viens refuser, résister, me repentir de tout ce qui pourrait empêcher le flot de la guérison. Et dernièrement, je me renouvelle dans ce qui me rapproche de la révélation qui est le Seigneur qui guérit. Le dernier verset apparaît à l'écran, ça nous dit qu'il s'est révélé, « Je suis l'Éternel qui t'a guéri. » Et eux, quand ils sont arrivés à Élim, il y avait 12 sources d'eau, 70 palmiers, et ils campèrent là. Ces mots-là ont resté dans mon cœur toute la semaine. Ils campèrent là, près des eaux. Je sais que c'est quelque chose de physique, ils ont campé là parce qu'ils sont mis en mouvement. Puis si vous lisez le chapitre suivant, dans leur cas, ils sont retournés dans l'amertume. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur de simplement vous rappeler que la guérison, il m'a guéri, il me guérit, il me guérira sur cette terre, physique, spirituelle et dans tous les domaines de notre vie. Ou à travers ce qui m'arrive, maladie et autres, et guérison que Dieu fait en moi, je deviens celui ou celle qui glorifie Dieu, va être l'héritage de ceux qui restent près des eaux. Reste proche. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de décider s'ils vont revenir à Dieu ou non, à l'Église Nouvelle Vie, qui ont vécu des choses et qui viennent faire quelques réunions, une des douleurs de mon cœur pastoral, c'est de voir le ciel rempli de bénédictions, de guérisons qui avaient votre nom dessus, mais c'est marqué non réclamé. Parce que tu n'es pas resté. Tu n'es pas resté accroché. Tu n'es pas resté près des eaux. Tu n'es pas resté dans sa présence. Tu n'es pas resté. Tu es venu faire deux petits pas dans l'eau. Tu es venu marcher. Tu es venu marcher dans la flaque quelques semaines, quelques mois, mais tu as toujours un plan pour en sortir. Tu ne te donnes jamais vraiment à Dieu. Tu ne donnes jamais vraiment un an à Dieu. Tu ne donnes jamais vraiment tout à Dieu. Tu gardes toujours un peu de fraude, un peu de ci, un peu de ça. Je recule en arrière, un peu de désobéissance. Il y a quelque chose en moi qui crierait, viens donc auprès des eaux. Campe auprès des eaux. Laisse faire le reste. Donne-toi entièrement à Dieu. Et tu entendras sa voix te dire, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Je suis l'Éternel qui te guérit. On va terminer ce message avec un témoignage. On va aller au témoignage du pasteur Dwayne Miller. Un témoignage qui m'a beaucoup touché, que j'ai entendu il y a quelques années, que je voulais vous partager ce matin. Le pasteur Dwayne Miller est en train de prêcher un dimanche matin, comme je viens de le faire. Puis alors qu'il est en train de prêcher, il avait eu des problèmes avec sa voix depuis plusieurs mois. Mais en commençant un message le matin, sa voix a disparu. Et alors que sa voix a disparu, c'était pas juste une brûlure. C'est comme si j'avais un poignard dans la gorge. Il a arrêté ce matin-là. Et il a pris une semaine de congé, un mois de congé. Finalement, a commencé à aller voir les meilleurs spécialistes des États-Unis pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, sa voix ne s'est jamais améliorée. Elle s'est comme fermée, shut down. Il n'était plus capable de parler d'aucune façon. Et après 6 mois, il y a eu des diagnostics, ses cordes vocales et tout le reste. Et pendant 1 an, il a été suivi par des spécialistes et experts en cordes vocales. Son diagnostic après 1 an, pardon, condition permanente, irrévocable, dégénérative. Il a été obligé de quitter le pastorat, capable de parler en public, parce qu'il avait une assurance qui était reliée à son travail. Il a perdu toute assurance, commençait à perdre ses revenus. Et perdu aussi, a été attaqué énormément parce que lui, sa vie entière, c'était de servir Dieu. Et là, tout ce que j'ai été toute ma vie, je ne peux plus l'être. Commençait à travailler dans une firme d'avocats, à remplir des dossiers. Et alors qu'il allait bien dans la firme d'avocats, un jour, il s'est retrouvé appelé au bureau et on lui a dit « On va être obligé de te laisser aller. » Puis, comment ça, vous n'êtes pas satisfait de mon travail? Et dans la même période de temps, il s'est fait annoncer qu'il perdait son travail parce que le travail impliquait qu'il devait aller présenter ses dossiers en cours et parler en public. Puis, on peut pas avoir, c'est toujours celui qui fait les dossiers qui doit aller présenter. Tu n'es pas capable de parler, tu ne pourras pas travailler pour nous. Il a écrit un livre, il continuait à aller à l'église, continuait près des eaux, avec le Seigneur, chercher Dieu, marcher avec Dieu, servir Dieu. Et alors qu'il était là avec tous les doutes et les douleurs qui pouvaient venir avec, pendant ces 3 années, il a écrit un livre qu'il croyait que Dieu l'inspirait à écrire. Il a envoyé un éditeur chrétien qui a dit « Le livre est formidable. Ce livre-là va être une grande bénédiction. » Et lorsqu'ils l'ont rencontré et qu'ils ont entendu sa voix, ils ont refusé le projet parce qu'ils ont dit « Le livre, il faut que tu en fasses la promotion. Il faut que tu puisses commencer à en parler. On ne peut pas avoir un livre de quelqu'un qui parle de sa foi en Dieu avec une voix comme ça. » Alors, la même semaine où il a perdu son emploi, ça tout a culminé. Le vendredi 15 janvier, il est refusé par les 93, il est refusé par les maisons d'édition. Et ce jour-là, personne ne le sait. Mais ce jour-là, le 15, il était le soir, puis il s'est couché en disant à Dieu, « Viens me chercher. Je veux mourir. Je ne suis plus bon à rien. Je ne suis pas utile à rien. » Mais il s'était, et ce que j'aime, qui me touche tellement de cet homme-là, qui aurait pu avoir toutes les rébellions et toutes les amertumes possibles, il a continué à chaque dimanche, il était à l'église, avait son emploi séculier, servait le Seigneur. Et un jour, il est allé voir son pasteur, puis il a entendu le pasteur dire « J'ai besoin d'un prof pour enseigner une classe. » Il avait été pasteur d'une grande église, puis il avait une petite classe avec quelques adultes. Il lui a dit « Si vous voulez, moi-même, même avec ma voix comme ça, je vais enseigner. » Et il s'est retrouvé pendant 1 an avec un micro spécial qui amplifiait le peu de voix qu'il avait, puis c'était vraiment difficile à écouter, puis les gens avaient à cœur de l'écouter, juste quelques adultes. Et il enseignait, puis il venait donner son message le dimanche. Puis lorsqu'il donnait son message, il dit juste l'effort de parler comme ça pendant 30 minutes. Il se retrouvait que lundi, mardi, mercredi, c'était la torture. C'est comme s'il y avait un feu dans la gorge, il était poignardé dans la gorge. Puis il le refaisait le dimanche après, puis torturé 3 jours, puis il recommençait. Et on le retrouve que le 15, il a tout perdu. Il dit adieu, je voudrais mourir. Et le 13 et le 15, il se retrouve le dimanche à l'église à faire sa petite classe. C'était le 15 janvier 93. Et le 17, pardon, c'est le dimanche. Et... il y a eu un hasard qui a pris place dans l'église parce qu'il enseignait toujours dans une classe. Il n'a jamais été enregistré. C'était une petite classe. Il n'était pas enregistré. Et on lui donnait son message. C'était son mouvement, leur église, qui leur donnait le curriculum sur 52 semaines à l'avance. Puis il arrive ce dimanche-là, puis le samedi, lorsqu'il regarde ce qu'on lui a demandé d'enseigner cette semaine, toutes les églises avaient le même curriculum. Son texte cette semaine, c'était « Il est le Seigneur qui te guérit ». Et lorsque je suis dans le pit, lorsque je suis dans la fosse, je peux mettre ma confiance en Dieu. C'était ça son texte, ce samedi. Et le dimanche, il y a un hasard parce qu'il y avait un grand spécial dans l'église. Alors, ils l'ont déménagé. Ils ont dit, tu ne pourras pas être dans telle classe, on a besoin du local pour d'autres choses. Puis, ils l'ont mis exceptionnellement, la seule fois. Ils l'ont mis dans un local où il était enregistré. C'est la seule fois qu'il est enregistré et l'enregistrement a fait maintenant le tour du monde. Parce que pendant qu'il est en train d'enseigner, puis on va l'entendre dans un instant, pendant qu'il est en train d'enseigner, il arrive au mot où il dit... Nous avons tous vécu des moments où on se retrouve dans la fosse, où on est au fond de la fosse. Mais il est le Seigneur qui t'a guéri. Sa voix a été guérie instantanément. Il dit que c'est comme si en une seconde, le feu a disparu, le couteau est enlevé, puis sa voix commence à revenir forte. Et ça fait maintenant, depuis 93, ça fait 16 ans de ça. Il prêche 300, 400 fois par année à travers le monde. Il a écrit son livre qui a été publié maintenant. Sa voix n'a jamais refaibli. Il n'avait jamais eu une minute de répit avant pendant 3 ans. Et là, vous allez voir, on va l'entendre dans un instant. Il ne sait plus quoi dire, il ne sait plus quoi faire parce que sa voix revient à pleine force. Les gens commencent à pleurer partout dans le petit local. Et le Seigneur qui le guérit n'était pas seulement des mots sur une page, mais un Dieu vivant qui vient rencontrer ceux qui lui remettent tout et qui restent près des eaux. On regarde ensemble. Alors que les musiciens prennent place, on l'écoute ensemble.
So when the psalmist writes, and he heals all of my diseases, let me say to you that I believe God still heals. That hasn't ended. That is not over. So the psalmist says, I'm excited. Bless the Lord, O my soul. One of his benefits is he heals all of my diseases. And in verse 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences.
Dans son témoignage, il raconte qu'à ce moment-là, la
douleur a disparu. We've all had times when our life seemed to be in a pit, in a grave. And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in. And I don't understand this right now. I'm but overwhelmed at the moment. I'm not quite sure what to say or do.
À partir de ce moment, toute douleur a disparu, il n'a plus jamais reperdu la voix. Sa guérison maintenant, ce témoignage, cet enregistrement a fait le tour du monde.
Sounds funny to say at a loss for words.
Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur nous aussi? Est-ce qu'on peut applaudir nous aussi la grâce de Dieu? Nous allons applaudir l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha est vrai, il est réel, il est vivant. Il est ici pour toi aujourd'hui. Penchez vos têtes avec moi en sa présence et mon appel va être très simple ce matin. Si vous êtes ici dans ce lieu et vous dites, j'ai besoin de Jéhovah Rapha. J'ai besoin d'être guéri. Peut-être que vous avez besoin d'une guérison physique, miraculeuse. Comme Pierre Filon, comme ce frère, la maladie est grave. Les ressources humaines, médicales sont arrivées à leur limite. Mais Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes ici dans ce lieu ce matin, vous avez besoin d'une guérison physique. Nous allons prier pour vous. Et nous allons prier pendant cet automne où je vous appelle, chacun d'entre vous, à dire, Seigneur, je veux te remettre ce qui fait mal, ce qui souffre, ce qui est malade. Je veux reconnaître que tu es Dieu. Je veux me renouveler dans ce qui me rapproche de cette vision. Pour moi, je ne quitterai pas les eaux de ta présence. Je veux demeurer près des eaux. Sans condamnation, mais avec la conviction et la révélation du Saint-Esprit. Je te demande de me montrer s'il y a quoi que ce soit qui empêche le flot de guérison de se faire en moi, dans ta parfaite volonté. J'ai aussi les yeux sur l'assurance, Seigneur, que je peux avoir une guérison physique instantanément, mais elle sera éphémère, elle sera de courte durée. Que chaque homme et femme dans ce lieu, un jour, nous quitterons cette enveloppe de notre corps pour entrer dans la guérison véritable, authentique, éternelle, qui ne peut pas nous être enlevée. Mais je suis ici aujourd'hui, Seigneur, et si vous êtes ici, vous dites, c'est une guérison physique ou d'autres qui sont ici, c'est une guérison émotionnelle. Moi, c'est une guérison de reconstruction que j'ai besoin dans ma foi, dans ma marche avec Dieu. Des gens qui sont ici, qui ont perdu un être cher et qui ont besoin d'une fraîche révélation que toute la vie sur la terre, 50, 70, 100 ans, c'est une seconde qui va passer. Et que l'éternité de guérison et de réconciliation, de rétablissement et de relation avec nos bien-aimés qui marchaient dans la foi, sera le jour où toute larme sera effacée de nos yeux. Et que quelle que soit la sphère dans laquelle vous avez besoin d'une guérison, Dieu est là ce matin pour toi. Et nous voulons déclarer par la foi automne de guérison. Je reconnais mon besoin à Dieu. Je veux appeler amer ce qui est amer. Je veux appeler malade ce qui est malade. Je veux appeler besoin de guérison ce qui a besoin de guérison dans ma vie. Je refuse de le laisser dans l'état actuel. Je veux me rapprocher. Je veux remettre à Dieu. Je vais crier à l'Éternel dans mon esprit, dans mon cœur. Et je veux me renouveler près des eaux en sa présence. Seigneur, je te demande cet automne, émerveille-nous par des guérisons dans ce lieu, ce matin, dans ce lieu. Guérisons physiques, des guérisons relationnelles, des guérisons émotives, des guérisons spirituelles, des guérisons, Seigneur, dans chaque sphère de nos vies, afin que nos vies proclament à ce monde qu'il n'y en a aucun autre comme toi et que la sagesse de ce monde ne peut pas reproduire les miracles que Dieu va accomplir dans le nom de Jésus. En te voyant, Seigneur, nous retrouvons la joie, la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Si vous êtes ici ce matin, vous avez besoin d'une guérison. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes à votre place. Guérison physique, guérison spirituelle, guérison émotionnelle, guérison relationnelle, guérison du passé ou guérison dans votre corps. Levez-vous. Il y a quelques personnes qui sont ici qui ne peuvent pas se lever. J'aimerais demander à des membres de l'équipe pastorale d'aller rejoindre des personnes que vous connaissez, que nous connaissons. Notre sœur Annie, plusieurs autres, notre frère qui est là aussi, d'autres qui sont ici. Une sœur qui est ici à l'avant, dans une chaise roulante. J'aimerais ça qu'il y ait des membres de l'équipe pastorale qui aillent l'entourer. Mettez un bras autour d'elle, simplement qu'elle ne soit pas seule. Il y a quelqu'un qui lui impose les mains. Peut-être Suzanne. Stéphane, viens prier avec Suzanne pour la madame. Viens. Pasteur Jacques, nous allons prier ensemble. Et vous qui vous êtes levés partout à travers ce lieu, maintenant je demande à toute l'Église de se lever ensemble. On va se lever ensemble. Et pendant un instant, j'aimerais que vous leviez vos cœurs vers Dieu et remettez au Seigneur ce qui a besoin d'être guéri. Commencez à parler à Dieu pendant un instant et que la présence de Dieu remplisse ce lieu.
Te voyant, nous retrouvons la force de vivre.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.